des polars et des notes.
Bonjour, bonjour et bienvenue, bienvenue sur Radio Évasion pour ce rendez-vous aussi automnal que mensuel autour de la littérature noire et de quelques-unes de ses dernières pépites. Alors, c'est une heure de bonheur au milieu des tueurs et des voleurs, voire des empoisonneurs. C'est tout de même une alternative intéressante à une promenade sous la pluie à se demander pourquoi on est sorti. Le camarade Pierre-Yves veille jalousement sur la console, comme depuis 8 ans maintenant. On prend un coup de vieux hein, quand on commence à compter. Comme à l'accoutumée, inutile de prendre des notes. Vous retrouverez toutes les références des bouquins sur la page consacrée à l'émission, sur le blog le429.fr, tout attaché et en minuscules.
Des polars et des notes.
On attaque avec un très gros morceau de 760 pages du noir de noir, rendant hommage au maître du genre, le dernier Hamet de Juan Sasturain, paru aux éditions Gallimard dans l'excellente collection La Noire. Une collection bichonnée par Stéphanie Delestré qui a accompli un remarquable travail. Si j'ajoute que ce pavé a été traduit de l'espagnol argentine par Sébastien Rutès, auteur lui-même du superbe Pas de littérature dont on avait parlé il n'y a pas si longtemps, qui est paru dans la même collection, vous ferez comme moi, vous allez craquer. Alors c'est l'histoire, il y a bien sûr l'immense Zachiel Hamet, le maître de la littérature noire, qui vient de sortir de tôle, où les délires paranoïaques du sénateur McCarthy l'avaient envoyé pour 6 mois, sous l'accusation commune à cette époque d'activité anti-américaine. Il est tricard, pestiféré pour tous ceux qui tiennent à ne pas être accusés à leur tour, c'est-à-dire tout le milieu intellectuel. Autre problème, il a perdu l'inspiration et ne parvient plus à aligner 3 phrases de suite sur une page blanche. Hébergé à Catona par un couple d'amis, il y est rejoint par un ancien frère d'armes de la guerre des Aléoutiennes, ce colonel Lindgren, un type vachement bizarre qui surnomme Tulip, qui est hableur, menteur, filou. Il tente de l'appâter avec des récits douteux afin de le convaincre d'écrire sa biographie. Alors à force de raconter n'importe quoi, il arrive n'importe quoi, et Hamet va se retrouver dans des situations plus que périlleuses et plongé dans une véritable enquête par la faute de son ami. Plusieurs romans se côtoient dans ce récit de l'intrigue de cogneur aux digressions en tous sens. Une seule chose ne faiblit pas, c'est l'intérêt. Alors malgré le poids de l'objet, je vous garantis que vous ne le lâcherez pas avant la toute fin. Une excellente idée cadeau pour amateurs de l'auteur de La Moisson Rouge ou du Faucon Maltais. Et dedans, il y a un peu de musique, il y a Johnny Ray, Cry.
If your sweetheart sends a letter of goodbye, it's no secret you feel better if you cry. When waking from a bad dream, don't you sometimes think it's real? But it's only false emotions that you feel. If your heartaches seem to hang around, blues keep getting bluer with each song, remember, sunshine can be found behind a cloudy sky. So let your head down and go on and cry. If your heart aches, seem to hang around too long, and your blues keep getting bluer with each song, well now remember, sunshine can be found behind a cloudy sky. So let your head down and go right on, baby, and cry. Un
Suédois qui écrit en français, c'est pas courant, c'est pourtant ça arrive. Je crois que j'ai tué ma femme, de Frasse Mikardson, qui est paru aux éditions de l'Aube dans la collection L'Aube Noire. Alors, Frasse Mikardson est suédois, il parle et écrit français, et il travaille même en médecine légale en France. Je crois que j'ai tué ma femme et son deuxième roman, publié à l'Aube Noire, après Autopsie pastorale. Ce roman est vraiment particulier dans sa forme, tout du moins, fort original. Il reprend de nombreux éléments véridiques d'une enquête menée en Suède, enquête à laquelle a participé l'auteur en tant que légiste. Et il livre de nombreux faits bruts, mettant ainsi son lecteur en position d'enquêteur. En fait, on a accès aux rapports, à des comptes rendus, etc. Et on se souvient d'une des meilleures bourdes de Trump, et il faut dire qu'il y en avait un tas, annonçant un attentat islamiste imaginaire en Suède. Et peu de temps après cette ânerie, Sarah, médecin légiste, est amenée à examiner le corps atrocement mutilé de Fatia. Alors c'est Orhan, son mari, qui a alerté les services de police, avouant avoir tué sa femme. Enfin, peut-être. Il n'est pas sûr. Il dit que c'est lui, mais il revient sans arrêt dessus, c'est pas sûr du tout. Enfin, rien n'est clair, et plus l'enquête avance, plus les éléments s'accumulent, plus tout se brouille. Alors on voit des SMS, on voit des rapports, des interrogatoires qui se succèdent, parfois des comptes rendus réels, qui montrent la difficulté à isoler la vérité. Fatia a-t-elle été victime d'un crime d'honneur parce qu'elle a quitté son mari et avait obtenu une mesure d'éloignement? La famille d'Oran était-elle au courant et l'a-t-elle protégée, aidée, encouragée, voire a-t-elle été complice? Ce roman condense près de 1000 pages de procédures sur les complicités qui peuvent encourager les violences faites aux femmes, malgré les signalements, malgré les décisions de justice. Un texte fort et capital. Moi, je vous le recommande. C'est vraiment très, très intéressant. Ça montre le boulot de flic dans sa dimension aussi banale que parfois ennuyeuse. Et on écoute Kent, à quoi rêvons-nous ?
En plein soleil, un cerf-volant, un train qui passe au bon moment, au détour d'un calme étonnant, à quoi rêvons-nous ? Entre deux gestes ordinaires, après un claquement de portière, quand on oublie d'être vulgaire, à quoi rêvons-nous ? Avant de monter en avion, un vol de fois ça l'abandonne. Quand l'âme change d'émission, à quoi rêvons-nous ? À quoi rêvons-nous quand nous ne dormons pas ? À la vérité qui nous colle, celle qu'on ne montre pas. À quoi rêvons-nous quand nous ne rêvons pas ? À cette personne idéale qui marcherait dans nos pas. carton gant sur les hanches, du nombreux sourire qui tranche. Après l'amour en plein dimanche, à quoi rêvons-nous? Des fusées pour l'autre univers, et l'enfance à un jet de pierre. Premier café, première bière, à quoi rêvons-nous? À quoi rêvons-nous quand nous ne dormons pas? À la vérité qui nous colle, celle qu'on ne montre pas. À quoi rêvons-nous quand nous ne rêvons pas? À cette personne idéale qui marcherait dans nos pas. Un jour qui pleure en rougir, l'ambition qui gagne un soupir, l'humilité pour nous bénir. À quoi rêvons-nous? On rêve à qui? On rêve à quoi? Un peu de chaud quand il fait froid, un peu de pain quand on a faim, un peu de tout quand on n'a rien, un peu plus loin quand on a tout. Ou bien on s'ennuie, on s'endort. On rêve à quand on n'avait rien. À quoi rêvons-nous quand nous ne dormons pas? À la vérité qui nous colle, celle qu'on ne montre pas. À quoi rêvons-nous quand nous ne rêvons pas? À cette personne idéale qui marcherait dans nos pas. À quoi rêvons-nous? À quoi rêvons-nous? À quoi rêvons-nous? À quoi rêvons-nous?
Alicia Cavian, le retour. Et oui, déjà la troisième enquête pour la technicienne de scène de crime spécialisée dans la balistique. Un nouveau polar énigmatique, s'il n'était pas si fou, paru aux éditions du Rouergue dans la collection Rouergue Noir. Et c'est toujours un grand plaisir de retrouver sa créatrice, Claire Raphaël, parce qu'Alice n'est franchement pas banale. Bonjour Claire.
Bonjour à vous.
Alors, ça commence par un bruit la nuit dans une ZUP, la ZUP Bel Air, une banlieue qui n'est pas une banlieue sensible, c'est une banlieue relativement tranquille, où Nicolas, un informaticien, entend un coup de feu au-dessus de chez lui, ou ce qui lui semble être un coup de feu. Et donc, tout de suite, alors, dans les premières pages, vous livrez votre vision un petit peu, je trouve que dans ce roman-là, vous les livrez beaucoup. Vous dites la cité est le lieu idéal d'un repli sur soi quand on a trouvé un travail qui paye et qu'on a mis en réserve tous ses désirs. C'est un petit peu dur, non?
Peut-être. C'est vrai que je m'intéresse beaucoup à la banlieue, d'abord parce que j'y ai toujours vécu et parce que je crois que c'est un lieu très intéressant. C'est un lieu où beaucoup de gens sont un petit peu repliés sur leurs habitudes. C'est aussi un lieu dans lequel il y a une vitalité particulière parce qu'il y a une jeunesse. Il y a d'ailleurs beaucoup dans mon roman de personnages qui sont assez jeunes. C'est une banlieue assez moyenne, avec un quartier bourgeois, avec un quartier plus populaire, avec une certaine indifférence de beaucoup de personnes les unes vis-à-vis des autres, et puis avec aussi ces trafics un petit peu cachés.
Oui, un petit peu, mais pas tant que ça finalement. Et donc Nicolas, lui, contrairement aux autres, il s'intéresse un petit peu, et puis c'est le turlupine, et il monte, et bien sûr, il s'aperçoit qu'il y a une femme qui est morte. Il y a eu un coup de feu, et donc la police est appelée, et d'entrée, il y a quelque chose qui va perturber l'enquête, c'est que la dernière personne, normalement, qui a vu cette victime, Sabine, c'est Amélie, et Amélie, c'est sa fille, et elle est schizophrène. Et ça perturbe d'entrée toute l'enquête.
Oui, absolument. On commence par ce crime, cette femme, et bien sûr, on s'intéresse à son environnement immédiat. Et c'est sur sa fille qu'on tombe, sa fille qui est une jeune femme qui souffre de schizophrénie, qui habite à proximité et dont très vite on va s'interroger sur son rôle dans cette affaire. Très vite, on peut le dire parce que c'est dans les premières pages du livre. Cette jeune femme va sembler vouloir s'accuser du crime. Et bien sûr, on va pouvoir envisager le fait qu'il s'agisse d'un crime familial provoqué par une pulsion morbide, facilité par la maladie mentale. Et il va falloir s'interroger sur la personnalité de cette jeune fille et au-delà, sur la personnalité d'un groupe de jeunes gens qui fréquentent un centre médico-psychologique sur la commune.
Oui, elle a une particularité, Amélie, c'est qu'elle est, elle est relativement bien intégrée. Elle vit dehors, elle a son appartement, elle mange tous les soirs chez sa mère, et elles ont des rapports difficiles. Et Alice Yekavian, l'héroïne, va jouer un petit peu le rôle d'empêcheuse d'enquêter en rond et de clore un dossier trop rapidement. C'est-à-dire qu'elle dit, bah, ouais, d'accord, elle a fait des aveux, mais par contre, les éléments, ils collent pas.
Oui, Alice, elle est chargée d'assister les enquêteurs, puisqu'elle est fonctionnaire de la police scientifique, donc elle est chargée de les aider à travailler sur les indices matériels, mais c'est quelqu'un qui prend des initiatives et qui aime se laisser entraîner par une affaire et qui va créer des liens forts avec les enquêteurs. Et bien sûr, très vite, on va se rendre compte que les déclarations de la fille de la victime ne sont pas en accord avec les constatations matérielles. Et donc, il va falloir aller plus loin.
Oui, et l'enquête, elle est menée par un bon flic, hein, Ludovic Marchand-Thierry, c'est quelqu'un qu'elle estime, mais il suit le protocole dans une affaire, et c'est une affaire où, comme la folie est rentrée tout de suite dedans, c'est une affaire où il serait bon de ne pas le faire, justement, de ne pas suivre le protocole à la lettre.
C'est effectivement cet enquêteur qui est chef de groupe, qui est un enquêteur aguerri. Il va suivre sa méthode. L'enquête criminelle, c'est une enquête méthodique. Et en même temps, c'est une enquête dans laquelle il faut savoir aussi se laisser conduire par les hasards et les opportunités. Et il le sait certainement, mais c'est là qu'Alice va avoir un rôle à jouer, peut-être parce qu'elle est plus libre finalement et peut-être davantage prête à écouter ce qu'a à lui dire Amélie, cette jeune femme schizophrène.
Il y a un autre écueil dans cette enquête, c'est Étienne. Étienne qui a un frère qui est lui-même malade mental et qui est bourré de préjugés par rapport à Amélie justement et c'est en fait il est plus gênant qu'autre chose alors qu'il intervient presque comme un expert.
Alors Étienne, c'est un jeune policier qui a intégré depuis peu le groupe piloté par Ludovic. Et Étienne, son frère, souffre de schizophrénie. Il le vit très mal. Et clairement, c'est un jeune policier qui est à vif. Il est à vif et il a un petit peu du mal peut-être à prendre sa place de policier, sa place d'un policier qui doit garder à la fois son objectivité et son sang-froid. C'est un modèle de jeune homme qui cherche à trouver sa place et qui va intervenir comme un élément perturbateur de l'enquête conduite par son chef, sans pour autant désobéir de façon flagrante, mais en prenant des initiatives, en ayant un langage par lequel il manifeste ses refus et peut-être une forme de révolte.
Et à travers, bon, en passant outre votre votre position d'autrice. Vous êtes aussi policière, enfin, vous intervenez sur des scènes de crime, etc. Et ça doit se poser quand même relativement souvent. Ce que moi, j'appellerais là, bien improprement, un conflit d'intérêts avec des policiers ou des techniciens de la police scientifique qui sont amenés à enquêter sur des affaires qui les mettent un petit peu en miroir.
Oui, bien sûr, dans ce métier, on peut régulièrement être confronté à des victimes ou parfois aussi des auteurs qui nous touchent. Alors très souvent, tout simplement parce qu'ils nous ressemblent, parce qu'il y a quelque chose dans leur histoire qui nous rappelle notre propre histoire. Et là, la distance nécessaire est du coup très difficile à maintenir. Et c'est là peut-être que le policier peut être amené à commettre des erreurs en se laissant entraîner par sa propre mémoire, par son propre inconscient, au lieu de garder raison, au lieu de garder sa méthode. Et en même temps, on peut aussi dire que le fait de se sentir particulièrement impliqué dans une affaire, c'est aussi ce qui permet de nourrir une motivation pour aller vraiment au bout de l'enquête, même si elle est difficile.
Bah, c'est là où, justement, vous avez bien joué. C'est qu'Étienne, lui, il a un petit peu le mauvais rôle, parce qu'il se met en position d'expert, mais il se trompe, il a tendance à ne pas croire Amélie, etc. Et au contraire, Alice, elle qui est poète également, va nouer une amitié presque, va vouloir aller plus loin avec cette jeune femme et va contrebalancer.
Oui, Alice, elle est fonctionnaire de la police scientifique et elle écrit de la poésie. Elle va se rendre compte que Amélie participe à un atelier de poésie au centre médico-psychologique et elle va s'intéresser à cela. Elle va créer des liens avec ces jeunes qui participent à cet atelier de poésie, un atelier qui est conduit par un patient qui est en rémission, un patient qui a su sortir la tête de l'eau, qui a su se sortir de la maladie mentale. Et il y a un lien assez complexe, mais un lien fort qui va se créer entre Alice, d'une part, et puis Amélie et les autres jeunes patients schizophrènes de ce centre médico-psychologique.
Et vous avez une phrase très forte là, et qui m'a posé question, je me suis demandé. Vous écrivez « Beaucoup de filles haïssent leur mère, mais elles ne les tuent pas. Elles ruminent leur haine et elles aiment ça. »
Oui, c'est vrai qu'on est aussi...
Alors là, j'aimerais bien que vous m'expliquiez.
On est au centre aussi de cette relation mère-fille, qui est une relation finalement très complexe. Et là, elle est d'autant plus complexe que Amélie est finalement très dépendante de sa mère. Elle n'habite pas chez sa mère, mais elle habite dans la même rue et elle vient dîner tous les soirs chez sa mère. Elle n'a pas été capable de prendre son indépendance du fait de la maladie. Et bien sûr, il y a cette tension entre ces deux femmes qui est en écho avec des tensions qu'on retrouve assez régulièrement entre parents et enfants, où on trouve un certain nombre de ressentiments, de rancunes qui s'expriment parfois d'ailleurs très tard. Nous sommes amenés, nous, parfois à travailler sur des affaires criminelles où on se rend compte que des enfants s'en prennent à leurs parents très tardivement, parfois après l'âge de 40 ans, 50 ans, parce qu'il y a des relations qui se sont envenimées de façon parfois très secrète, et il y a des ruminations personnelles qui font que tout d'un coup, il y a des conflits majeurs qui éclatent.
Ouais, la braise peut couver très longtemps. Et donc, en même temps, vous rejoignez très vite l'actualité, parce que Alice ne va pas être uniquement confrontée à cette enquête, elle est aussi confrontée à un refus d'obtempérer avec mort d'homme. Et elle doit déterminer. Et là, Alice interroge les armes, l'arme de la première affaire, et en même temps les armes de la seconde, et elle doit déterminer si les tirs étaient justifiés ou non.
Oui, effectivement, j'ai à cœur, quand j'écris un roman policier, de mettre en évidence aussi les coulisses du métier de policier, les conditions dans lesquelles ces policiers sont amenés à procéder à des investigations, mais aussi là, en l'occurrence, les conditions dans lesquelles ils peuvent être amenés à intervenir sur une interpellation difficile et les conditions dans lesquelles des armes vont être utilisées. Et là, Alice va être amenée à procéder à une expertise particulière. Il ne s'agit pas de savoir qui a tiré, mais il s'agit de savoir si les tirs des policiers sont en légitime défense. Une question qui se pose à chaque fois que des policiers font usage de leurs armes.
Et à chaque fois, vous vous retrouvez entre le marteau et l'enclume, c'est-à-dire avec des policiers qui vous pressent de déclarer qu'ils ont bien fait, et avec une famille ou avec des gens qui vous pressent de dire « mais non, les flics ont eu tort, ils n'auraient jamais dû tirer ».
C'est là effectivement que les experts, que sont les fonctionnaires de la police scientifique et que je suis moi-même, sont amenés à devoir faire preuve d'une rigueur parfaite, d'une objectivité parfaite. Il s'agit de travailler, comme on dit, pour la manifestation de la vérité et bien sûr de ne pas céder aux pressions éventuelles ou aux tentatives de séduction des uns et des autres.
Il y a une question, là. On pourrait en parler des heures de votre roman, parce que vraiment, à mon avis, vous êtes beaucoup documenté sur la schizophrénie et sur ces manifestations, parce que moi qui ai travaillé très longtemps, j'ai retrouvé des choses, mais tout à fait véridiques. C'est un des rares romans où je ne me suis pas énervé en le lisant. Et j'ai l'impression que vous êtes plus impliqué dans ce roman que dans les deux autres. Votre travail de policier est un peu passé en second plan et qu'il y a un véritable travail d'écrivain qui est arrivé et vous êtes presque passé à la littérature blanche sur ce s'il n'était pas si fou.
Alors c'est vrai que dans mes deux premiers romans, le métier, mon métier et le métier de ma narratrice Alice étaient plus présents et finalement ces deux premiers romans étaient un petit peu plus techniques et là je suis passée peut-être à une écriture plus romanesque.
Et un autre style même.
Oui, peut-être, mais alors ça, c'est peut-être quelque chose qui est venu du sujet lui-même, parce que finalement, le sujet impose une manière d'écrire. Et là, effectivement, j'ai vraiment voulu donner beaucoup de place à des personnages, et notamment à ces personnages de jeunes schizophrènes qui sont souvent très maltraités dans la littérature, comme vous le disiez, parce que souvent, on les perçoit de façon très caricaturale. Et j'avais à cœur peut-être un peu de rendre hommage à ces jeunes gens qui vivent une maladie difficile. Et je voulais mettre en valeur leur douleur, leur humanité, leur obéissance face aux soignants et puis aussi leur révolte contre leur maladie, leur révolte parfois contre la société. Et certainement, oui, ce roman est plus romanesque que mes romans précédents.
Oui, et vous allez continuer comme ça parce que franchement, c'est le meilleur.
Ah, eh ben écoutez, je vais certainement continuer à donner de la place à des personnages. Moi, j'aime une littérature qui s'incarne dans des personnages qui sont apparemment ordinaires, mais qui portent une histoire assez riche. Moi, je veux m'inscrire dans une forme de tradition de littérature sociale. C'est une littérature que j'ai beaucoup lue, la littérature sociale du 19e siècle, bien sûr, je pense à Zola, mais aussi la littérature sociale du 20e siècle. Et j'aime mettre en valeur ces personnages qui sont des personnages, des petites gens, on pourrait dire, et finalement qui ont un vécu fort, qui ont une histoire et qui sont dans des conflits parfois très difficiles à résoudre.
Eh ben c'est ce que vous dites dans votre livre, vous rendez les invisibles visibles. Et merci pour eux, et en plus, merci pour nous, parce que c'est très très agréable à lire. Alors, on n'a pas donné aucune solution, on ne vous a pas trop parlé de tous les petits trafics, parce que vous allez les découvrir vous-même en lisant « S'il n'était pas si fou » de Claire Raphaël, qui est paru aux éditions du Rouergue, dans les collections Rouergue Noir. Et il y a un petit peu de musique. On va s'écouter The Alan Parsons Project, Step by Step. retour au Japon, c'est pas si souvent dans la littérature noire, avec Eugenia de Riku Honda, qui est une autrice, publiée par l'atelier Akatombo dans la collection Roman Noir. C'est un bouquin traduit du japonais par May Beck et Dominique Sylvain, qui est une très grande autrice de littérature noire également. Donc Makiko, 11 ans, ne peut que se féliciter d'être arrivée en retard à la grande fête donnée dans la villa des Aozawa, les riches propriétaires d'une clinique. Lorsqu'elle y arrive avec ses frères, elle constate, horrifiée, que 17 personnes sont mortes empoisonnées au cours du repas. Seule Isako, une adolescente aveugle, a survécu et elle est le dernier membre de la famille. Alors, un seul indice pour orienter les enquêteurs, un mystérieux poème retrouvé sur place. Quelques années plus tard, un suspect est retrouvé suicidé et cela permet à la police de clore le dossier dans lequel elle n'a pas du tout avancé. Elle n'attendait que cela, de pouvoir le classer. Mais cette solution trop simpliste ne satisfait pas Makiko et 10 ans après les faits, elle entreprend d'écrire un livre et enquête pour découvrir le fin mot de l'histoire. Au fil de récits, tous les protagonistes encore vivants du drame vont livrer leurs témoignages, embrouiller un peu plus les idées du lecteur, tout comme ceux de la jeune femme. C'est un roman choral, alors les versions se chevauchent, se recoupent, s'en mêlent, s'entremêlent, et la lecture demande une attention réellement soutenue. Alors l'effort est récompensé par une très belle fin et un roman porté par une remarquable écriture poétique à souhait. On est loin du hard boy de Hamet, mais le noir nippon mérite le détour et Dominique Sylvain travaille d'arrache-pied à nous le faire découvrir et nous la remercions. Et alors on s'écoute, il n'y a pas de musique dans le roman, alors comme il y a des empoisonnés, on va s'écouter Alice Cooper, Poison. L'époque, avec le conflit en Ukraine, est à la résurgence de termes comme guerre froide, menace russe, peur de l'holocauste nucléaire. Eh bien, retournons une bonne fois en arrière, au début des années 50, dans l'arrière-cuisine du Parti communiste français, avec un roman plus noir que rouge, mais qui nous apprend bien des arcanes de ces années de paranoïa, tant d'un côté que de l'autre. D'ailleurs, le SDEC n'était pas étranger aux manœuvres noires qui se déroulaient. Alors, le roman, c'est Fièvre rouge, au pluriel, qui est paru aux éditions Plomb, sous la plume de Judith Rochman. Bonjour, Judith.
Bonjour.
Alors, en fait, tout commence en Espagne. En 1937, qu'arrive-t-il donc à la petite Julia Guzmán ?
En 1937, son père participe donc à la guerre d'Espagne. C'est un républicain espagnol et il meurt au combat. C'est le prologue du roman qui donc entre de façon assez fracassante dans l'histoire. Et puis on va aller tout de suite directement. On va sauter une bonne quinzaine d'années, toute la Deuxième Guerre mondiale. Pour entrer en 1951 dans un appartement où on retrouve Julia, 25 ans à peu près, même peut-être un petit peu moins, qui sort de ses études et qui intègre une cellule communiste parisienne. Et elle va être hébergée par un couple, Sergueï et...
Racontez pas tout. Il y a un truc qui est quand même important, c'est que le père de Julia donc, est tué pendant le conflit et qu'elle est adoptée par son camarade de combat, qui est un Français. Oui. Et qui a promis de prendre soin de la femme et de la petite Julia. Et il rentre au pays et effectivement, il tient parole.
Ce
brave type, il s'appelle Sacha Grunewald.
Oui.
Et il a survécu à la guerre d'Espagne, mais il n'a pas de bol, il est juif.
Comme vous dites, il n'y a pas de bol.
Et donc, Julia, elle est quand même un petit peu marquée parce que son papa, il est mort à la guerre en Espagne et son papa adoptif et le deuxième mari de sa mère, lui, est mort assassiné par les Allemands.
Donc, par les nazis,
ouais. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez lourd qu'elle trimballe sur les épaules. Mmh. Et donc là, maintenant, je suis d'accord, on y va. On est en 50.
Double.
Ouais.
Oui.
Double assassinat.
Double raison de lutter contre le fascisme pour elle. Elle va être animée par cette volonté d'en découdre avec l'extrême droite.
Exactement. Et elle se retrouve donc dans cette cellule de la place d'Italie avec un type qui mène le bal de la cellule, qui est responsable de la cellule, il s'appelle Sergueï.
Oui, et Sergueï joue un jeu un petit peu particulier.
Et Sergueï Dimitrov est un séducteur.
Est un séducteur et un homme à femme. Et il va essayer de séduire Julia, qui lui paraît une bonne proie et une proie facile, puisqu'il fait tout pour convaincre sa femme de l'héberger chez lui. Et elle, qui est au départ un petit peu réticente, se laisse faire. Et finalement, on va voir que Julia est peut-être un petit peu plus attirée par les femmes que par Sergueï, hein, ce qui va mettre Sergueï Dimitrov en rage. Et c'est là qu'elle va, elle va réussir à le mettre hors de ses gonds.
Mais c'est voilà. Aussi parce qu'Emilie, elle en a marre d'être abaissée continuellement. Parce que, alors là, on est quand même dans ce qu'on appelle les forces vives de la gauche, hein, c'est-à-dire des gens qui sont progressistes. Et là, il y a un petit écart, normalement, enfin, que moi, je vois, entre ce qui se passait dans le bloc de l'Est, où, contrairement, effectivement, c'était terrible, c'était tout ce qu'on voulait, mais où la femme avait une place, elle avait une véritable place, et ce qui se passe dans les cellules du Parti communiste, et ce qui se passait effectivement, réellement, vous avez raison, à cette époque-là, où il y avait une domination patriarcale au sein des cellules du Parti communiste. Il y avait quand même deux discours et deux réalités.
Oui, tout à fait. C'est vraiment une espèce de duplicité qui m'intéresse. Hein, que quand on est dans un discours progressiste, démocratique, on veut montrer que on va donner la place à chacun. Et puis ce problème de la femme, peut-être presque, on a l'impression que les dirigeants du parti, les hommes, les militants masculins sont presque gênés de cette question à cette époque et que ils ont mis du temps finalement à accepter la véritable égalité de la femme, puisque la société tout autour n'était pas du tout prompte non plus à évoluer. Donc ils ont évolué peut-être un peu plus vite, mais à cette époque on est encore vraiment dans un patriarcat classique et les femmes se débattaient complètement là-dedans avec beaucoup d'espoir et puis des désillusions. Et c'est ça aussi que j'ai voulu montrer, et ça fait partie de l'histoire de ma famille.
Ouais, parce que ce que vous montrez bien, c'est que les femmes, c'était bien parce que c'était la piétaille. Elles distribuaient les tracts, etc. Mais il n'était pas question non plus de négliger les tâches ménagères.
Voilà, hein, et puis surtout la famille, faire des enfants, être la bonne ouvrière, celle qui va rassembler, fabriquer des petits ouvriers. Hein, donc il fallait absolument que la famille reste au cœur de l'idéologie communiste de l'époque. Voilà.
Et ce que vous montrez aussi, c'est qu'à cette époque-là, le Parti communiste français, il n'est pas au mieux. Parce que son vrai chef, Maurice Thorez, il est en URSS, parce qu'il n'est pas bien du tout. On ne sait pas, bien évidemment, les bulletins de santé sont complètement pipotés. Donc c'est Duclos, Jacques Duclos, qui le remplace. Et il y a une véritable paranoïa complètement dingue, où tout le monde soupçonne tout le monde de trahir. Tout le monde se bat pour avoir la place de chef, la place du chef, puisque le chef, il est moitié, il est subclaqué en URSS. Et ça, Sergueï, il est au milieu de tout ça. Et Sergueï, c'est un ambitieux salaud, mais qui évolue au milieu d'autres ambitieux salauds.
C'est ça. Il va y avoir des petites guéguerres qu'on va comprendre au fur et à mesure du roman. Mais c'est vrai que tout ça est une toile de fond. Hein, j'ai envie de dire aux auditeurs qu'ils aient pas trop peur non plus de tomber dans un livre où on n'est vraiment que dans l'idéologie et puis l'histoire. C'est vraiment un livre d'aventure aussi et où il y a du suspense et où on explore aussi beaucoup l'intimité des personnages. Donc, pour moi, tout ce qui est de l'ordre de l'histoire est un décor dans lequel je vais faire évoluer les problèmes de trahison,
d'espionnage.
Donc on va être au cœur de la psychologie des personnages. Hein.
Il y a une triple intrigue en fait dans Fièvre Rouge. Il y a une triple intrigue qui est politique, l'espionnage et une intrigue amoureuse.
J'ai voulu mêler les trois.
Alors, on trouve aussi des personnages historiques qui sont très intéressants du côté des femmes, par exemple, avec Madeleine Jacob. Parce que votre héroïne, la petite Julia, qui est devenue une jeune femme, est vraiment très douée. Elle est intelligente, elle est vive, elle a un sens du journalisme profond. Et elle va rencontrer Madeleine Jacob qui va l'embaucher à Libération. Et Jacob, c'est un chantre de l'épuration. Et elle a trouvé que l'épuration était beaucoup trop douce.
Oui.
Moi, j'ai retrouvé un texte de Célinia qui justement s'en prenne à elle quand Louis-Ferdinand Céline a été amnistié qui dit qu'elle peut se mordre le front et distiller sa bile et vomir sa haine. C'est trop tard, Louis Ferdinand Céline est amnistié.
Oui.
Et donc Madeleine Jacob va embaucher Julia et Julia va rentrer dans le siècle comme journaliste.
Ouais. C'est un personnage, effectivement, cette journaliste que j'ai découvert à travers des recherches. Et puis, le fait que ce soit une femme et qui ait pu être aussi acharnée à ce moment-là, je me suis dit, cette femme, il faut absolument qu'elle soit dans mon livre et lui donner un rôle. Voilà, cette ferveur et ce combat, hein, j'avais retrouvé ça aussi chez Julia. Enfin, j'avais envie qu'elle soit un petit peu son maître.
Julia, elle est, voilà, c'est son démiurge, mais elle est en même temps celle qui la cale. Hein.
Oui, elle la recale aussi. Hein. Elle se comporte un peu comme un homme avec elle. Elle la remet à sa place. Elle lui dit aussi au début. Elle la teste hein, comme une femme assez dominatrice. Je l'ai imaginée comme ça, du moins.
Ben, en même temps, si Julia continuait comme elle était partie, elle se serait cassée les dents partout parce qu'il ne faut pas oublier qu'elle évoluait dans un monde d'hommes.
Et
elle lui donne les clés pour arriver à survivre un peu.
Oui, elle a toute. Elle est vraiment comme un mentor pour elle, voilà.
Voilà. Et donc, mais il va y arriver plein d'aventures. Julia, elle va partir en URSS avec le mari d'Émilie, ce qui est assez cocasse, et ils vont vivre des aventures assez extraordinaires au Kremlin, rencontrer Torres, etc. Et Julia va être protégée par un personnage véritable qui a existé, qui s'appelait Auguste Lecoeur, et qui était membre du bureau politique du Parti communiste français, et qui va la protéger.
Oui.
En fait,
il va la protéger.
Ouais. Et il y a toute une. Alors là, je ne sais pas si vous l'avez fait exprès, qu'il se retrouve avec pour consigne de surveiller Marty, François Marty, qui a joué un rôle particulier dans la guerre d'Espagne parce qu'on l'appelait le boucher d'Albacete.
Ouais.
Et qui était quand même quelqu'un qui a du sang d'anarchiste espagnol plein les mains, plein les pieds, qu'on a partout, et qui était l'exécuteur des basses œuvres. Et à cette époque-là, le comité central du Parti communiste français, c'était vraiment une réunion de tueurs.
Oui, alors je ne suis pas allée peut-être aussi loin dans mon roman, mais...
Non, mais de tueurs aussi bien symboliques, quoi. C'est-à-dire, c'était celui qui prendrait le pouvoir.
Ah oui, c'est vrai qu'ils se sont tous, ils ont tous essayé de se dénoncer mutuellement et de se soupçonner. Et c'est finalement Auguste Lecoeur qui sera exclu du parti en 1954. Qui va plus pouvoir aider Julia par la suite, et elle va se retrouver bien seule et elle va essayer de retrouver une aide dans le parti pour mener sa quête.
Voilà.
Que je ne peux révéler complètement.
Non, surtout pas. Et en fait, vous formez une petite bande de femmes, une sorte de gynécée qui est très sympathique, avec Betty, qui est un personnage un peu dingue, comme je les aime bien, une artiste, un petit peu faiseuse d'ange, un petit peu... Vous parlez de la lutte pour l'avortement, alors là, au PCF, c'est même pas la peine de leur en parler. La lutte pour l'homosexualité, aussi bien féminine que masculine, c'est pas la peine non plus d'en parler. Alors, en fait, ils se retrouvent dans une société qui est soi-disant progressiste, mais complètement réactionnaire.
Ouais, c'est un chapitre particulier que j'ai consacré à une réunion où elles vont toutes les trois, qui est une réunion de l'Union des femmes françaises. Donc, on a l'impression que ça a l'air féministe comme ça, et puis finalement, on se rend compte que Julia, bon, qui n'est pas la mère au foyer idéale, se fait rembarrer parce que elle a pas le profil, en gros, et donc c'est j'ai pris un certain plaisir à montrer à quel point il y avait un décalage avec ce qu'on peut appeler le féminisme aujourd'hui.
Il faut dire qu'elle se fait pas rembarrer par n'importe qui, elle se fait rembarrer par Jeannette Vermeersch, qui était quand même la femme de Maurice Thorez, le chef en exil, et qui agissait en toute puissance et qui disait ce qui était féministe et ce qui ne l'était pas.
Oui, tout à fait. Hein. Je pense qu'elle c'était une femme de pouvoir et qui menait complètement l'idéologie. Et quand son mari était en URSS, elle a pris les rênes du parti.
Oui. Et il y a un événement qui est vraiment la dernière question là, parce que il y a la mort de Staline en 1953. Qui est vraiment mais un drame. On se rend pas compte aujourd'hui parce qu'on sait ce qui s'est passé et on sait qui était Staline, mais c'est quelque chose qui est absolument incroyable aujourd'hui, la façon dont ça a été ressenti par les militants à cette époque-là.
C'est vrai que j'avais envie aussi de faire revivre ces moments absolument fous, et puis cette on n'arrive pas à comprendre en fait comment on pouvait être aussi fasciné, presque amoureux d'une personnalité d'un autre pays comme ça, et puis cette désillusion énorme qui vient derrière quelques années plus tard avec les révélations des crimes staliniens. C'était un choc terrible. Mes grands-parents ont vécu ça complètement. Hein. Ils ont été totalement choqués au point de jeter leur carte du parti en 57, quelque chose comme ça. Et c'était terminé pour eux. Hein. Et pourtant, ils étaient parmi ces gens en 53 qui pleuraient Staline. Bon, comme voilà, des centaines et des centaines de gens.
Eh oui, il y a eu 1500 morts, je crois, aux funérailles de Staline en URSS. C'est vous dire un petit peu que c'était pas n'importe quoi. Alors, si vous voulez vous replonger dans cette tranche d'histoire, mais en même temps vivre une vraie enquête avec de l'espionnage, avec du danger, du suspense et tout ça, et en même temps une très très belle histoire d'amour, très fine, très douce, c'est vraiment quelque chose qui vous prend. Moi, je vous recommande Fièvre rouge de Judith Rochman, qui est paru aux éditions Plomb. Et merci beaucoup, Judith.
Mais je vous en prie, merci beaucoup.
Il y a un petit peu de musique dans votre livre, et nous, on va s'écouter Billie Holiday, Stormy Blues, parce qu'on en parle de Billie Holiday.
Oui, merci.
Man, when it rains in here, it's storming on the sea. When it rains in here, it's storming on the sea. Every time I come here, everything happens to me. I lose my man, I lose my head, I lose my money, feel like I'm almost dead. I need you, honey, need you bad as can be.
On retrouve un polar scandinave avec Mémoire d'un reptile de Silje O. Ulstein, je ne sais absolument pas du tout comment ça se prononce, qui est paru aux éditions Actes Sud dans la collection Actes Noirs et qui a été traduit du norvégien par Frédéric Fourou. Alors c'est encore un roman choral, tiens, comme Eugénia. C'est une histoire mais glauque de glauque, mêlant les personnages, les lieux, les époques, avec pour point commun la vie et l'œuvre d'un python nommé Néron. Tout commence par une violente dispute à propos d'un illustré qu'une mère, Mariam, refuse à sa fille de 11 ans, Iben. La gamine disparaît dans le centre commercial et pour ne rien arranger, sa mère prend le volant et s'enfuit avec la ferme intention de ne plus jamais rentrer chez elle. Alors ça commence fort fort fort. Aussitôt suite, on remonte 10 ans en arrière. Période au cours de laquelle une jeune fille dépressive, gravement traumatisée, tente de faire surface en compagnie de son étrange animal de compagnie, Néron, vous l'aurez deviné. Alors une relation tout à fait fusionnelle s'établit entre le reptile et sa propriétaire, mais Néron a acheté tout petit, grossi, et il grossit beaucoup, et il grandit, et il demande des proies de plus en plus importantes. Il ne se satisfait plus des souris congelées, du lapin refroidi, il veut du palpitant et du vivant, il veut les capturer, il veut les avaler comme un vrai bon python. Voilà. Alors le roman avance comme le serpent, en ondoyant, en prenant son temps, en passant des mémoires de l'un à celles de Néron lui-même, qui raconte très bien ce qu'il ressent. Alors c'est typique des polars scandinaves, rien d'haletant, mais une atmosphère étouffante, pire qu'un python, et une intrigue réellement passionnante. C'est un des très bons romans européens de cette année, fort bien construit et écrit. Surtout, ne pas s'arrêter à « J'aime pas les serpents », Néron pourrait bien vous étonner. Et on s'écoute Electric Wizard, Venom Sabbati.
When you get into one of these groups, there's only a couple ways you can get out. One is death, the other is mental institutions. We'll be right back.
Nous nous quittons après ces serpents qui sifflaient sur nos romans avant de nous retrouver pour la dernière fois de l'année. Vous avez de quoi meubler vos soirées en attendant. Et puis, il va falloir songer à quel bouquin pourrait bien avoir sa place sous le sapin pour Tata Josette tout autant Lucien. Du boulot en perspective. Bye bye.
Des polars et des notes.